Le chef des œuvres 66. Le Concile de Nicée et la divinité. Le 27 mai 2006. Pasteur Brian Kozurek. 1. Dimanche dernier, nous avons parlé de la semence pour la saison, et pour notre texte, nous avons lu du paragraphe 110 au paragraphe 113. Il y avait quelque chose d'autre dans ce paragraphe que nous n'avons pas abordé. Ainsi, nous prendrons ce service de communion pour étudier cette pensée supplémentaire que frère Branham émet ici au paragraphe 113. Il parlait de la manière que la semence devait mourir. Bien, pas vraiment mourir, parce que la vie dans cette semence n'y meurt pas. Mais la coque doit mourir ou pourrir afin que la vie qui estère dans cette semence se manifeste, ou afin que la vie qui estère dans la semence s'exprime. 2. Alors, au paragraphe 113 du chef-d'œuvre, 05.07-64, frère Branham dit, maintenant, les historiens, souvenez-vous, et vous qui allez écouter cette bande, vérifiez-le et vous verrez si c'est bien juste. L'église Esther morte à Nicée, Rome, quand elle a adopté des dogmes et des credos, au lieu de la parole originelle. Qu'Esther ce que c'était? Dieu avait démontré par cette première église, qu'il était Dieu. Il avait une église parfaite, mais l'église comme toutes les autres semences, elle doit tomber en terre et mourir. Donc, elle est tombée en terre, elle est morte, elle a perdu sa force. 3. Ainsi, frère Branham situe la mort de la première église par rapport à l'événement qui a eu lieu à Nicée à Rome en 325 Apocalypse. J.C., c'est à cela que frère Branham se réfère ici. Ainsi, qu'était le concile à Nicée? Le concile de Nicée fut le premier conseil écuménique de l'église chrétienne, et cela a eu lieu dans l'ancienne Nicée, qui est terre maintenant appelée İznik, située en Turquie. 4. L'empereur romain, Constantin Ier, avait la responsabilité d'ouvrir la session et de prendre part aux discussions. Il avait espéré qu'un conseil général de l'église résoudrait le problème créé dans l'église de l'Esther par l'arianisme, laquelle fut une hérésie qui a été proposée par Arius d'Alexandrie. Cette hérésie soutenait que Christ n'est Esther pas divin mais plutôt Esther un être créé. C'est Esther au fond, ce que les témoins de Jéhovah croient aujourd'hui. Ils mettent l'accent sur le fait que Jésus-Christ était un être créé. Ceci est dû à une mauvaise interprétation des saintes écritures. 5. Ils prennent Colossiens 1h15, qui parle de Jésus et dit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, et ils prennent ce premier-né de toute la création et disent qu'il est le premier de la création de Dieu, ce qui est une erreur. Parce que Jésus n'était pas un être créé, il fut engendré, et il y a une vraie différence. 6. Ils prennent aussi Apocalypse 3h14, qui déclare que Jésus est le commencement de la création de Dieu. Ils lisent ceci comme si Esther dit que Jésus a été créé et qu'il fut le premier être créé. Mais le mot commencement fut traduit du mot grec arch, qui fait allusion au rang et à l'emplacement ou à la position, comme étant la tête de ça n'est ce, reporte pas à Jésus comme étant le premier être créé. Ainsi, les témoins de Jéhovah se réfèrent à Apocalypse 3h14, et plus considérablement à Colossiens 1h15, pour soutenir leur enseignement selon lequel Christ a été créé par Jéhovah. Cette erreur doctrinale est basée essentiellement sur les mots, le premier né de toute la création, que nous voyons dans ce verset. Mais remarquez que cette écriture n'enseigne pas que Jésus était le premier être créé, mais elle dit qu'il est le premier-né. Il y a deux mots différents en grec, et ils ont deux significations différentes. et ses significations sont aussi différentes que l'apparition et la venue. Le premier être créé Esther, traduit du mot grec protoktisto, et le premier nécester prototokos. 7. Dans Colossiens 1h15, Paul a utilisé le mot prototokos, qui vient de deux mots grecs. Proto qui signifie en premier et tokos qui signifie né, d'où le mot premier-né. Ce mot parle d'un héritier, ou de quelqu'un qui a été engendré, le premier-né, et Paul n'a pas utilisé le mot proto, tisto qui aussi est constitué de deux mots grecs, proto qui signifie en premier et tisto, qui signifie la création, et par conséquent, il parle de la première création. 8. Alors, ce que Paul nous dit dans Colossiens Esther que Christ Esther le premier dans le rang, au-dessus de toute la création, et par conséquent, il Esther la tête de toute chose, il Esther l'héritier de tout, et il Esther avant toute création. 9. Maintenant, les témoins de Jéhovah ont un argument justifié contre la doctrine trinitaire de la divinité, et ils ont un argument assez bon concernant le fait que l'homme Jésus était un homme et pas Dieu. Mais Néhémie savent rien de la dualité que frère Branham a enseigné et ils échouent dans leur évaluation de l'homme Jésus, parce qu'ils manquent de le lien à Dieu par la semence, la dualité, et l'expression. Et là où ils s'écroulent le plus, dans leur compréhension concernant la divinité, c'est Esther qu'ils situent Jésus comme un petit Dieu, et comme une partie de la création de Dieu. Mais il était par-dessus tout, un être, juste un homme mortel comme vous ou moi. Il lui accorde un rang plus haut que les anges, les prophètes, et les apôtres. Mais n'arrive pas à le lier avec la dualité que frère Branham lui a attribuée, en rendant le corps digne de vénération et d'adoration. 10. 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. 17. Il est Esther avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. 18. Il est Esther la tête du corps de l'Église. Il est Esther le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, la Bible anglaise dit, afin que dans toute chose, qu'il ait la prééminence. 11. Maintenant, le mot prééminence veut dire simplement, le premier dans le rang et en influence, et il fait certainement plus. 12. Ainsi, nous voyons qu'au début, le vrai défi à l'unité de l'Église fut sur la doctrine de la divinité, et l'Église s'était divisée sur cette doctrine avant Nicée, mais l'empereur voulait une Église unifiée. Alors, il convoqua cette rencontre à un endroit où l'on pouvait surmonter les différences. Dieu Néhémie veut pas que nous nous réunissions pour durcir nos différentes positions. Ce n'est pas cela que devraient être les réunions des ministres. Ces réunions doivent avoir pour but d'instruire dans la justice, d'enseigner des choses plus profondes de Dieu aux jeunes ministres. 13. Dans son sermon se ranger du côté de Jésus COD 62-0601 p. 49 frère Branham a dit, 83 et ensuite, là-bas, formez d'autres ministres dans vos propres groupes, des hommes que vous jugerez avoir un appel dans leur vie pour le ministère. Formez ces jeunes gens. Amenez-les ici chez l'ancien. Mettez-vous tous ensemble dans une réunion des ministres et, là, enseignez les choses les plus profondes de Dieu. N'allez pas à la mauvaise extrémité. Gardez quelqu'un qui, en qui vous pouvez avoir confiance pour être en quelque sorte comme un conducteur pour vous. Et alors, si parfois vous Néhémie voyez pas les choses de la même manière que lui, tel qu'il s'y prend, c'est Esther en ordre. Vous êtes dans la foi de toute façon, avancez simplement. Peut-être lorsque nous nous réunirons, alors nous tous ensemble, nous prierons. Le discernement de Dieu descendra et les révélera très exactement ce que c'est Esther. Voyez-vous? Et nous montrera bien comment le faire. 84 Et là-dedans, les églises peuvent aller suivre et former un groupe d'hommes. Et si je suis quelque part dans une œuvre évangélique, il y a à travers le monde des endroits où je peux les placer. 85 Qu'arriverait-il si j'étais en Inde? Je retournais en Inde. Et là, je dirais à ces gens. Peut-être qu'il y aurait des milliers qui resteraient là pendant une ou deux semaines, et qui verraient ce ministère. Ils l'aimeraient. Ils croiraient que c'est la vérité. Ils sortiraient du paganisme. Ensuite j'ai. Et peut-être en deux ou trois semaines. Quand j'étais là, en deux ou trois semaines. Quand j'étais là, en deux soirées. Peut-être 100 000 ont été convertis à Christ, n'ayant pas d'endroit où aller. Le jour suivant, j'ai pris un avion et je suis retourné d'abord à Rome, puis de là, aux États-Unis. Je les ai laissés juste comme des brebis abandonnées au milieu des loups. Qu'en serait-il si j'avais un groupe d'hommes, des jeunes gens formés dans le message? Voyez-vous? Je dirais, maintenant, attendez une minute. Avant que je n'aie mis parte d'ici, nous allons mettre ces églises en ordre. J'aurai un homme à qui j'ai déjà envoyé un télégramme, et ils ont l'argent. Ils sont en route vers ici maintenant même pour prendre la relève de ce, un brave homme. Il y a deux ou trois jeunes gens qui l'accompagnent et qui seront ses aides et assistants. 86 Une église de cette foi pourra être établie là. Elle sera une antenne en Inde, une antenne en Allemagne, une antenne en Suisse. Or, en ce moment même, nous devrions en avoir à travers toutes les nations où j'ai été. Et le message. Alors à partir d'une antenne naîtra une autre, d'une autre antenne sortira une autre. Voyez-vous ce que je veux dire? 14. Ainsi, vous voyez que le but des réunions des ministres est d'étudier les choses plus profondes de Dieu, pas de faire des compromis sur la parole, pour avoir un plus grand cercle de fraternité. Cela n'était jamais le plan de Dieu, mais c'est exactement ce que l'empereur Constantin a fait en usurpant l'autorité sur l'Église. 15. L'origine du problème était sur l'arianisme qui enseignait que Jésus n'était pas Dieu, mais qu'il était le Fils de Dieu et que par conséquent, il n'était pas dans la divinité, mais la divinité était en lui. Maintenant, cela peut paraître assez bon, mais de là, ça a directement débouché sur l'unitarisme. D'après l'Encyclopédie britannique, l'arianisme était une hérésie chrétienne qui fut premièrement proposée au début du IVe siècle par le presbytère alexandrin, Arius. Elle affirmait que Christ n'était pas vraiment divin, mais plutôt il était un être créé. Maintenant, là où nous sommes différents d'Arias et des témoins de Jéhovah qui ont relevé son défi, c'est que nous n'aimons, croyons pas que Christ a été créé. Nous croyons qu'il était engendré par Dieu. En d'autres termes, il était une partie de Dieu, et Dieu a enfanté son fils. 16. L'hypothèse de base d'Arius était l'unicité de Dieu, lequel est le seul qui auto-existe et qui est immuable, cela veut dire inchangeable et que le Fils qui n'existe pas de lui-même, n'est peut pas être Dieu. Parce que la divinité est unique, et le mot unique signifie, il n'y en a qu'un seul. 17. En d'autres termes, Arias croyait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ce que signifie le mot unique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre de semblable. Un seul du genre. Et par conséquent, la divinité Néhémie ne peut pas être partagée ou communiquée. Ainsi, le fils Néhémie ne peut pas être Dieu. Et parce que la divinité est immuable, ce qui signifie que sa Néhémie peut pas changer, c'est ce que nous voyons dans Malachie 3. 6 car je suis l'Éternel, je n'ai et m'y change pas. Et Hébreux 13, 8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Par conséquent, nous comprenons que Dieu n'est et m'y change pas. Mais Ariès croyait que le Fils de Dieu est mutable. Cela signifie qu'il pouvait changer et il changea. Parce qu'il est représenté dans les évangiles comme étant sujet à la croissance et au changement, et par conséquent, du fait qu'il peut changer, il n'est et ne peut pas être Dieu. 18. L'Encyclopédie britannique continue, ainsi, nous voyons que Arias a regardé l'immuabilité comme le principal attribut de Dieu, et parce que le Fils n'est pas immuable, donc, il n'est et ne pourrait pas être Dieu. Maintenant, là où Arias comme les témoins de Jéhovah commet aussi leur erreur, c'est-à-dire qu'ils sont du même avis que le Fils doit, par conséquent, être considéré comme une créature qui a été appelée à l'existence à partir du néant et a eu un commencement. Et ainsi il conclut, de plus, le Fils n'est ne peut pas avoir une connaissance directe du Père étant donné que le Fils est limité d'un ordre différent d'existence. 19. Maintenant, bien que nous consentions que le Fils a un commencement, parce que par nature, être un Fils, c'est avoir un commencement, mais nous n'attribuons pas ce commencement à un acte de création, mais plutôt à une naissance. Parce que, la création vient du néant à quelque chose, alors que la naissance vient de la vie d'un autre, une expression de cette vie dans un autre être, et c'est de là que nous croyons être venu le Fils de Dieu, il est venu de Dieu lui-même, et ainsi, il était une expression de Dieu sous la forme humaine. Nous sommes aussi en désaccord avec la pensée que le Fils Néhémie pouvait pas avoir connaissance du Père. Parce que le Fils de Dieu lui-même a dit dans ses propres paroles, personne n'y connaît le Père si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils veut le révéler. Et nous croyons que Dieu a demeuré dans son Fils, et a vécu dans ce Fils dans une dualité d'être, ou partagé ce corps. Ainsi, Dieu en habitant le corps de son Fils unique, c'est que le sien, existence, a apporté dans le Fils la connaissance du Père. Car, si, Dieu avait habité dans le corps de son Fils, alors Dieu a aussi habité son cerveau, et donc la pensée de Dieu est à rentrer dans le Fils. Et comme Paul a dit, que la pensée qui était en Christ, soit en vous. 20. Maintenant, c'est comme ça que Jésus a prié quand il a dit, qu'il soit un Père, comme toi et moi sommes un, qu'il soit en nous. 21. Nous trouvons ceci dans Jean 17:11, je n'ai mis suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. 22. Et nous savons la façon qu'ils étaient un. C'est-à-dire du fait que la gloire qui était en Dieu, était en Christ. Et cette gloire nous fut donnée par Jésus, pour que nous soyons un avec Dieu, de la même façon qu'il était un avec le Père. Et nous savons que la gloire est le mot doxa qui est l'opinion, l'évaluation et le jugement laquelle sont les pensées exprimées de Dieu lui-même. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 17:22, je leur ai donné la gloire, c'est le mot doxa que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ainsi, vous voyez que la même pensée que Dieu a donnée à Jésus, Jésus nous l'a donnée, afin que nous soyons un avec Dieu, comme il est un avec Dieu. 23. Maintenant, nous venons de lire dans Jean 17:11 où Jésus a prié son Père en ces mots. Je n'ai mis suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Et comment se fait-il que nous soyons un comme, ce qui signifie de la même manière que Jésus et son Père étaient un. Jésus a dit, Jean 17:11, je n'ai mis suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus nous dit que nous devenons un avec Dieu à travers la même parole par laquelle il est devenu un avec Dieu. Jean 17:20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. 21 Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. 24 Par conséquent, il est très évident que nous sommes un en recevant la même parole que Jésus a reçue de son Père, nous introduisant ainsi dans la même gloire ou la même pensée que le Père. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. 25 Et frère Branham porte bien le témoignage à ceci dans son sermon, Le temps de la moisson 641212 pp 87. 034 Jésus a dit, afin qu'ils soient un. Père, comme toi et moi sommes un. Pas pour que l'homme soit au-dessus de quelque chose, ça n'y marchera jamais. Une dénomination veut prendre le dessus sur l'autre, et un homme au-dessus de l'autre. Mais que vous soyez un avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient un. C'est ce qu'est la prière. Que il était la parole. Et Jésus a prié que nous soyons la parole, le reflétant, lui. C'est pour que sa prière soit exaucée. Voyez comment Satan scrupulsa dans la pensée charnelle. Mais ce n'était pas du tout la prière de Jésus, que nous soyons réunis ensemble et tout, et avoir un certain credo. Chaque fois ils le font, ils vont davantage plus loin de Dieu. Il veut que nous soyons un avec Dieu, et Dieu est la parole. Chaque individu dans son cœur doit être un comme cela avec Dieu. 26 Or, il n'y a aucune façon pour nous d'avoir la même pensée qui était en Christ à moins que nous ayons la même disposition génétique que Christ avait avec Dieu. Il n'y a qu'un vrai fils né qui pouvait avoir la même disposition, parce que chaque semence doit se produire selon son espèce. Par conséquent, nous sommes un peuple privilégié parce qu'en tant que fils, nous sommes capables de recevoir la pensée même qui était en Christ. 27 C'est ce que Jean a voulu dire quand il a dit dans Jean 1h12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 28 Maintenant, ce pouvoir de devenir signifie qu'ils ont reçu une capacité de prendre une bonne décision. En d'autres termes, ils ont reçu une capacité d'avoir une pensée correcte. Et cette capacité, qui s'obtient uniquement par prédestination, nous permet de penser les pensées de Dieu. Elle nous permet de recevoir la pensée même de Christ. 29 C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Matthieu 11h27 « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne n'y connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus n'y connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » 30 Par conséquent, nous n'y sommes pas d'accord avec Arias qui croyait que le fils Néhémie pouvait pas connaître directement le Père, parce que le Père lui-même était entré dans son fils, a vécu et demeuré dans son fils. Mais c'était ça ses enseignements. C'est ce qu'il disait, de plus, le fils Néhémie peut pas avoir une connaissance directe du Père étant donné que le fils est limité d'un ordre différent d'existence. 31 Et cela est contraire à ce que William Branham a enseigné quand il a dit, il était un être double. Quelquefois, c'était le Fils de Dieu qui parlait et quelquefois, c'était Dieu qui parlait en lui. Là où nous sommes en désaccord avec Ariès concernant la divinité, c'est Esther qui l'a considéré Christ comme être créé, alors que nous le voyons comme un fils uniquement engendré. Ainsi, en tant que fils, nous sommes aussi privilégiés de connaître Dieu, de même que nous sommes connus de lui. 32. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean 3, de bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 33. Et nous savons que cette apparition s'estère la fainéro de Dieu, quand il viendra pour être manifesté dans son vrai caractère. Et donc, quand Dieu s'estère manifesté dans son vrai caractère, nous le voyons comme il estère réellement et ainsi, en voyant Dieu comme il estère réellement, nous commencerons alors à manifester le changement de ce que nous sommes réellement. 34. Maintenant, en revenant à ce que frère Branham a dit concernant le concile de Nicée, il l'a dit au paragraphe 113 du chef-d'œuvre maintenant, les historiens. Souvenez-vous. Et vous qui allez écouter cette bande, vérifiez-le et vous verrez si c'est Esther bien juste. L'église Esther morte à Nicée, Rome, quand elle a adopté des dogmes et des credos, au lieu de la parole originelle. Qu'Esther ce que c'était? Dieu avait démontré par cette première église, qu'il était Dieu. Il avait une église parfaite, mais l'église comme toutes les autres semences, elle doit tomber en terre et mourir. Donc, elle est Esther tombée en terre, elle est Esther morte, elle a perdu sa force. 35. Maintenant, ceci s'Esther passa à Nicée quand l'Église et l'État se sont réunis dans un mouvement écuménique à travers les arguments d'Arias que nous sommes en train d'utiliser concernant la divinité, et l'État gouverné en faveur de ceux qui étaient réellement trinitaires dans leur compréhension doctrinale de la divinité. 36. Nous lisons de nouveau dans l'Encyclopédie britannique. Le pape en ce temps-là était Sylvestre Ier, il n'avait pas assisté à ce concile de Nicée, mais il fut représenté par les légats. Le concile condamna Arius et, avec répugnance de la part de quelques-uns, le concile a incorporé le mot non, scripturaire musio, d'une substance en un credo, le credo de Nicée, pour signifier l'égalité absolue du Fils avec le Père. L'empereur fit alors exiler Arias, un acte qui, en manifestant une solidarité de l'Église et de l'État, a fait ressortir l'importance du patronage séculier dans les affaires ecclésiastiques. 37. Le livre de l'âge de l'Église chapitre 1, introduction, la révélation de Jésus-Christ P. 29 en Néhémie, croyez pas en trois dieux au début de l'Église. Vous Néhémie pouvez pas trouver ce genre de croyance parmi les apôtres. C'était après l'âge apostolique que cette théorie fut introduite et devint vraiment une question et une doctrine cardinale au concile de Nicée. La doctrine de divinité a causé une division à Nicée. Et de cette division sortirent deux extrêmes. En fait, l'une est rentrée dans le polythéisme, en croyant en trois dieux, et les autres sont allés dans l'unitarisme. Bien sûr que cela était tout petit quand ce fut introduit, et c'est arrivé, et nous l'avons aujourd'hui même. 38. Et ainsi, nous voyons que quand l'Église a baissé ses barrières et pris part à une rencontre écuménique qui fut parrainée par l'empereur Constantin, ce fut alors la mort de l'Église. Le livre des âges de l'Église chapitre 5, l'âge de l'Église de Pergame P. 147, et Esther ce que Constantin et ses successeurs firent à Nicée. Et quand l'Église Esther assise pour manger, et Esther levée en pièce de théâtre, prendre la forme d'Église, les cérémonies, Et fête païenne ont nommé après rite chrétien, elle a été piégée. Elle commit une fornication. Et Dieu en est sorti. 39. Et nous voyons cela se passer aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas une chose populaire de dire la vérité, parce que la vérité blesse. Mais la vérité reste la vérité, et aussi longtemps que vous marchez dans la lumière, comme il est dans la lumière, vous avez la communion avec lui, mais lorsque vous avez laissé tomber les barrières et que vous commenciez à compromettre sur la parole prendra son envol. Et le Saint-Esprit laissera l'Église comme il le fit autrefois. 40. Regardez. Ce n'est pas chose facile de marcher avec les quelques méprisés du Seigneur. Et en fait c'est ce que frère Branham a dit dans son sermon Shalom 19.01-64p, 97 Seigneur Dieu. Néhémie me laisse jamais fixer ma pensée. Comme Judas. Sur un dollar supplémentaire. Sur une mode du monde, ou que quelqu'un vous tapote sur le dos, et dit, « Oh, frère Branham, voici. Non, non. Dieu, Néhémie laisse jamais cela m'arriver. Je marcherai avec les quelques méprisés du Seigneur. Je serai un frère pour quelqu'un. Je ferai tout mon possible, Seigneur, d'aimer les gens de tout cœur. Mais, Seigneur, Néhémie me laisse pas quitter cette parole. 41. Vous savez, les gens considèrent la grandeur comme un signe de réussite. Nous regardons à toutes les églises, qui grandissent en nombre et nous disons, ils sont prospères et ils grandissent. Mais ce n'est pas la manière de l'église de Dieu. Si nous nous tenons comme l'avait fait Jésus, sans faire des compromis sur ce qu'il a dit, alors nous, Néhémie, pouvons pas nous attendre à un plus grand nombre de gens, mais devons plutôt nous attendre à un nombre plus petit. 42. L'unique façon de faire grandir une église, c'est de faire des compromis sur ce que dit la parole de Dieu, afin de faire entrer un grand nombre de soi-disant croyants. Souvenez-vous toujours, car les enfants de la délaissée, la prostituée trad, seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Galates 4, 27, 43. Avertissement. Puis jugement 63-0724p, 37. Et, oh, comme c'est dur quelquefois de faire des choses comme parler aux gens. Si le prophète Néhémie fait pas attention, il aura des ennuis, parce qu'il dévira en quelque sorte d'un côté, pour essayer de rendre ça facile, ou en faisant des compromis un peu ici et un peu là. Mais le vrai prophète qui a reçu l'ordre de Dieu, Néhémie devrait en rien faire des compromis. Il devrait absolument présenter ça sans détour. C'est la raison pour laquelle il a beaucoup utilisé l'esprit d'Élie, voyez? Parce que, cet esprit a toujours exécuté ses ordres. Vous voyez? Voyez, cet esprit a rapporté ses ordres exactement tels que c'était, et a toujours en revenu à la parole. Voyez, toujours les ramener à la parole. 44. Et c'est ce que frère Branham nous dit que le chef-d'œuvre en cette heure reflétera le chef-d'œuvre que Dieu avait en Christ Jésus, parce que cela ramène de nouveau à la parole. Le fils Néhémie peut rien faire de lui-même. Il n'est mis fait que ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Néhémie t'ai-je pas envoyé 24.01-62p, 45 la raison pour laquelle Dieu envoie un prophète? C'est que les gens s'éloignent de Dieu par des traditions des anciens et ainsi de suite. Et ils amènent tout dans l'église qui est mondaine. Et la première chose que vous savez, ils font des compromis un peu ici et un peu là. Et un peu ici et un peu là. Et la première chose que vous savez n'est rien d'autre qu'une organisation. Il n'a rien si ce n'est comme une loge. Les gens s'y rassemblent pour participer à toutes sortes de soupers, de danses, Et de Banco? Autre chose. Et l'église Nestère? Rien de plus qu'une loge. Sester vrai. En terminant, j'aimerais dire que si vous avez lu le sermon de frère Branham intitulé « L'influence d'un autre », prêché le 13 octobre 1962, vous verrez ce qu'il croyait au sujet de faire des compromis concernant la vérité. Il a parlé de grands ministères qui ont dû faire des compromis sur la vérité pour rester grands, pendant que Dieu l'a affranchi pour aller vers les églises de 20 personnes seulement. Il y a d'autres qui, Néhémie, pourraient pas se permettre d'aller à de tels endroits, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent tous les jours uniquement, pour continuer d'animer leurs émissions radio-télévisées. 46. Je sens la même chose. Dieu nous a permis de faire ce que d'autres églises, qui dépassent 50 fois notre dimension Néhémie, pourraient faire. Cet été, nous distribuerons gratuitement notre centième ordinateur portable, et quand nous avons commencé à le distribuer avec le message entier et la doctrine du message y sont chargés, la plus grande église en Amérique du Nord, quand ils ont découvert ce que nous étions en train de faire, nous a appelés, pour savoir en plus. Ils nous ont dit qu'une EMI pourrait jamais distribuer gratuitement leur matériel, parce qu'ils avaient tant d'employés à l'église et il fallait assez d'argent pour continuer à le faire. Le nombre d'employés de leur église dépasse le nombre de frères de cette église-ci. 47. Je regarde ce petit groupe et vois que par la grâce de Dieu ce ministère fait ce qu'aucun autre Néhémie fait là-bas. Frère Branham a dit que nous devrions tenir des réunions des ministres et discuter les doctrines et former des jeunes ministres pour garder ce message vivant. Et c'est ce que nous avons fait autour du monde par la grâce de Dieu. Et par sa grâce je continue à aller là où aucun autre ira parce qu'il y a un besoin pour ses enfants, pour savoir qui ils sont. Et les Néhémies peuvent pas savoir qui ils sont avant qu'ils le connaissent. Lui. Les autres qui tiennent des réunions des ministres n'enseigneront pas la doctrine. Ils l'évitent de peur d'avoir des querelles parmi eux. Ils tiennent des conseils écuméniques en quelque sorte, parce qu'ils insistent dans leurs réunions l'unité et un plus grand cercle de confrérie. 48. Mais à travers la doctrine de Christ que nous enseignons, Dieu instruit ses enfants à mieux comprendre leur rôle dans sa famille. Et nous Néhémie pourrions pas savoir notre rôle sans d'abord le connaître. Qu'il Esther ici, comme frère Branham a dit, mon ministère c'est Esther de le faire connaître, lui, qu'il Esther ici. Et ainsi, nous faisons la même chose et prêchons la même chose. 49. C'est Esther ce qu'il a dit dans son sermon. Depuis ce moment-là 13.07-62p-102 combien savent il y a une différence entre l'apparition de Christ et la venue de Christ? Ce sont deux mots différents. Maintenant c'est l'apparition. La venue sera pour bientôt. Il est Esther en train d'apparaître au milieu de nous, faisant les œuvres qu'il fit autrefois, dans son église. Maintenant, vous êtes une partie de cette église-là, et par la grâce vous croyez. Je suis un membre de cette église-là. Maintenant, je n'y suis pas un prédicateur. Vous savez que je n'y le suis pas. Je n'ai pas d'instruction pour le faire. Quelquefois je me sens peu disposé à me tenir ici devant les hommes de Dieu qui sont appelés à cette fonction. Il y a des apôtres, des prophètes, des enseignants, des pasteurs, et des évangélistes. Tous Néhémie sont pas des apôtres, tous Néhémie sont pas des prophètes, tous Néhémie sont pas enseignants, tous Néhémie pas des évangélistes. Je me tiens ici, mais mon ministère est un ministère différent d'un pasteur ou d'un enseignant. Je Néhémie le suis pas. Et si je dis mal à qui les choses, frère, pardonnez-moi. Ce n'est pas mon intention. Mais voici mon ministère, voyez? Le faire connaître, Lui, qu'il estère ici. 50. Et à ceux qui enseignent ceci comme doctrine, nous n'y sommes que des administrateurs de cette grande lumière et cette doctrine qui nous a été donnée. Et en tant qu'administrateurs, nous serons tenus pour responsables de ce que nous en faisons. Toutes les églises que je connais, qui sont de grandes églises, ont commencé comme de petites églises, mais les ministres sont allés partout dans différents endroits et ont réuni les gens à partir de petits troupeaux pour former leurs grands troupeaux. Mais je n'ai pas fait cela, et j'ai refusé de le faire. Je n'ai pas cherché à augmenter l'effectif de cette église. Et je n'ai pas envoyé mes livres et mes bandes pour gagner de l'argent ou construire une assemblée. Je n'ai émis facture pas les livres et les CDs. Et je les envoie dans la plupart des pays où les frères Néhémie pourraient pas payer pour ça. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. 51. Cependant, à travers ce ministère, aussi petit soit-il localement, néanmoins Dieu l'a utilisé pour apporter la doctrine jusque-là à plus de 160 pays et en conséquence. Nous recevons des milliers d'emails chaque année venant des ministres des pays dans le monde entier. Et beaucoup d'entre eux nous disent qu'ils prennent ces sermons que vous écoutez chaque semaine et ils enseignent à leurs propres assemblées. Et leurs fidèles sont bénis. Je n'y crois pas que nous saurons ou comprendrons l'impact de ce que Dieu fait ici avant que nous arrivions de l'autre côté. 52. Au Congo, les ministres se réunissent ces dernières années, depuis que nous avons tenu des réunions des ministres pour enseigner la doctrine là-bas. Et ils continuent à se réunir mensuellement et prennent les sermons qui sont prêchés ici comme support d'études pour leur propre réunion des ministres. Ça nous rend très humbles de voir ce que Dieu fait dans le monde entier, et de voir que nous en avons eu un rôle à jouer. Autour du monde, les hommes de Dieu traduisent ces sermons dans leur propre langue. Je n'y connais aucun autre ministère dont ce message qui puisse le faire, où la doctrine est enseignée à beaucoup de gens autour du monde. Je n'y m'attribue pas de mérite pour ce qui se passe. Vous devez être soit arrogant soit fou de penser que ceci soit l'œuvre d'un homme. Nous n'avons pas de grande machine qui fonctionne ici. Néanmoins, c'est l'œuvre de Dieu, et ça nous garde humble de savoir cela. 53. Alors, si Dieu fait ces choses, comment pourrions-nous tant soit une fois faire des compromis sur ce message comme l'Église primitive l'a fait à Nice et Rome? Au lieu de nous opposer à ces réunions, les hommes doivent s'humilier assez pour admettre qu'avant qu'ils n'aient vienne à nos réunions, ils avaient prêché le message dans l'erreur pendant 20 années ou plus. Les hommes doivent admettre que pendant 20 années ou plus, bien que croyant le message, cependant ils n'aient comprenaient pas encore ce qu'était le message jusqu'à ce qu'ils soient venus à ces réunions. Les hommes qui sont des anciens pour moi dans ce message sont maintenant mes enfants dans cet évangile. Grâce étonnante, ô quel doux son, qui sauva un malheureux comme moi. J'ai honte de moi-même pour ça. De savoir que j'aurais pu donner plus à Dieu que ce que j'ai, et je n'ai pas pu lui céder très tôt ma vie. Et cela aurait été plus agréable pour lui, à travers ma vie. Mais néanmoins, comme Jésus a dit, tout ce que mon Père m'ordonne de dire, c'est ce que j'enseigne. Et l'épouse aura l'ainsi dit le Seigneur sinon elle gardera silence. 54. Ainsi, priez pour nous alors que nous allons dans ces pays étrangers, parce que les conditions de voyage Néhémie sont pas faciles, et le diable essaie toujours d'arrêter les réunions, en érigeant des obstacles partout. Alors, nous avons besoin de vos prières. 55. Que Dieu vous bénisse tous. Prions. C'est Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2009. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site internet à briancocourec@yahoo.com.